Ça va mieux, Jean-François Mignard, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors pour commenter cette actualité, vous l'avez entendu bien sûr Jean-François Mignard et outre moi-même, nous avons la part féminine est assurée par Maëva Feld, journaliste stagiaire de l'ISJT et que vous pouvez entendre puisqu'elle a son émission qui s'appelle Le Libre de Lire. Donc si vous avez envie de savoir, de découvrir peut-être quelques ouvrages, eh bien écoutez-la, vous verrez, c'est tout à fait passionnant. Sommaire aujourd'hui, les élections européennes, le déficit public, tout le monde
forcément,
en parle.
Forcément.
Et oui, et puis la guerre à Gaza et la nouvelle position des États-Unis. Et bien sûr, les rubriques habituelles. Et voilà, c'est Ça va mieux, c'est parti. Et c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Allez, on commence par la citation. Alors, citation, pourquoi me soucierais-je des générations futures qu'ont-elles fait pour moi ? Comme on va parler finalement du bâton merdeux, si je puis dire, qu'on va laisser aux générations futures, on en a quelques-uns dans le studio, les générations futures, je leur ai choisi ça, donc pourquoi me soucierais-je des générations futures quand elle fait pour moi ?
Alain Delon peut-être.
Oui, ça aurait pu, non, c'est de Groucho Marx.
Oui.
Vous eussiez pu le reconnaître.
Nous eussions.
Nous eussions. Voilà, quelques chiffres. Alors, que j'ai pêché cela chez TTSO qui nous dit, selon France Assureur, les catastrophes climatiques en France ont coûté 6,5 milliards d'euros aux compagnies d'assurance en 2023, qui est l'année la plus coûteuse après 99, qui avait déjà été ponctionné les portefeuilles, et 2022, ce qui fait presque deux fois la moyenne de la décennie 2010, où là, ça leur coûtait globalement 3,7 milliards. Eh bien, nous en sommes à 6,5. On en parlera dans l'émission Arcania.
Je crains qu'il faille s'y habituer.
Oui, il faille s'y habituer, puis il faut peut-être commencer à constituer des provisions aussi. Et on en parlera, puisque je souhaite recevoir un pool d'assureurs dans l'émission Arcania, qui ne traite que de l'environnement. Mais c'est déjà énorme et nous allons imaginer ce que pourrait être l'assurance dans les années qui viennent. Ça risque de ne pas être triste, surtout pour nous aussi, parce qu'on parle des assureurs, mais on sait que c'est nous qui indirectement sommes ponctionnés.
Ce qui va nous saper un peu plus le moral.
Absolument. Alors, Pâques arrive, vous l'avez vu. Et qu'est-ce qu'on fait à Pâques ? Ben, on cherche des œufs, on mange du chocolat.
On regarde passer les cloches,
mais ça, bon, c'est toute l'année et Dieu sait que les troupeaux sont épais. Alors, j'ai noté sur TTSO toujours, hein, ce quotidien en ligne qui tous les soirs nous envoie quelques messages. Eh bien, ils se sont polarisés sur l'association UFC Que Choisir qui a fait une étude sur 80 confiseries chocolatées. Et les moyennes des prix, ben, c'est 5%. En 2023, soit qui est quand même plus que l'inflation alimentaire sur un an. Et donc les stars, Pascal, vous savez qu'il y a toujours des stars, ben la hausse est sans limite. Là, le lapin Lindt coûte plus 6%. La cloche Ferrero Rocher, alors elle s'envole à plus 11%.
Pour une cloche, c'est normal.
Voilà, non, 8%, pardon, 8%, je dis une bêtise, et plus 11% pour la boîte 6 œufs de Kinder. Voilà, des marges certainement très confortables. Bon, il y a quand même le prix du cacao qui a augmenté. Vous savez qu'il a beaucoup plu en Afrique de l'Ouest, et le prix de la tonne de cacao est au plus haut depuis les années 70.
Il eût été intéressant de savoir ce que touchait... Le péon à l'autre bout de la chaîne.
Mais... j'en ai vu à la télé, il avait même enlevé les chaussures, il était pieds nus dans une boue effroyable. Enfin, sachez quand même, mais vous ne devez pas en acheter souvent, que la tonne de cacao vaut plus cher désormais qu'à la tonne de cuivre.
Yeah.
Donc, si vous cherchez les œufs...
Il va falloir que j'économise, voilà, avant d'investir. Oui.
Trouvez-les. Et puis, Laurent Geoffrin, qui tous les jours nous fait un billet, qui nous a parlé du recteur Aubin et du rapport qu'il avait fait, puis surtout le rapport de deux sénateurs, Laurent Lafont et François-Noël Buffet, respectivement LR et UDI, qui avait été publié le 6 mars dernier et qui nous dit que les chiffres sont éloquents. Sur une année scolaire, 58 500 enseignants du second degré ont été menacés, 17 200 bousculés ou violentés et 900 menacés d'une arme, le tout pour des motifs divers, mais c'est surtout la contestation de la laïcité qui est certainement le moteur principal. Donc effectivement, chiffre des plus éloquents.
Il faudra faire une ça va mieux là-dessus.
Pourquoi pas, il faut trouver des enseignants, mais je vous fais confiance, Jean-François, vous m'en trouverez. Donc peut-être qu'il faudrait que certains membres de LFI retiennent un peu leur verbe quand ils font des commentaires là-dessus, une certaine dame notamment, que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire de la publicité. Allez, on rentre dans notre premier sujet, les élections européennes. À mes yeux, mais vous allez me dire ce qu'il faut en penser, constitue un scrutin crucial. Vous avez vu l'agitation des partis politiques qui nous servent un peu toujours les mêmes discours stéréotypés, on est habitué, petite manœuvre d'appareil, jeu de chaises musicales pour la candidature, être candidat à la candidature, parce qu'il faut quand même être à la bonne place sur la liste. Hein. Il faut être en position éligible. Les listes sont longues, mais on sait que pour la plupart des partis...
Les écuries s'alignent.
Les écuries s'alignent, oui, mais tous les chevaux partiront, mais très peu arriveront à la mangeoire.
Et donc, certains resteront au paddock.
Voilà, on peut faire, oui, effectivement, filer la métaphore. Bon, moi, ce que je pense, c'est que cette élection, d'abord, ne saurait se transformer en un référendum anti-Macron. C'est pas qu'il n'y ait pas des choses à dire, hein, mais voilà, voire à une répétition générale de la prochaine élection présidentielle, même si certains rôdent déjà leur slogan de campagne, notamment un certain monsieur Mélenchon, qui tente de nationaliser ce scrutin tout en lâchant quelques phrases qui doivent être douces aux oreilles du dictateur Poutine. Une élection qui ne saurait pas non plus être un tremplin pour le Rassemblement national, hein, parti dont les élus sont très présents à Strasbourg, tant dans l'hémicycle qu'en commission, et qui travaille très médiocrement, tout en tapant d'ailleurs allègrement sur la Maison Europe, en la critiquant à tout moment sur tous les sujets, tenant au Parlement européen un discours plus que droitier, et puis très curieusement un tout autre apaisé, consensuel au plan national. On devient normal, on se lisse, on essaye de faire oublier qui on est et d'où on vient. Bref, un parti qui est tout sauf en capacité de gouverner de façon responsable dans un monde très protéiforme. Ce n'est pas avec des pseudo-solutions simplistes, hors sol et datées, teintées de populisme rance, que l'on fait face à des situations complexes, aux évolutions incessantes et rapides. Donc il faudrait que le Front National revoie sa copie. Alors écoutez, les uns et les autres, on a nettement l'impression qu'il s'agit d'un scrutin, encore une fois j'y reviens parce que ça m'a frappé, purement national, marqué par des enjeux strictement français, et l'on se demande où est l'Europe dans tout ça, qui va enfin se démarquer, prendre de la hauteur, élever le débat, nous parler de l'Union européenne et de son fonctionnement, bien sûr à parfaire, de ses grands objectifs, de ses risques, de ses opportunités et de ses valeurs. S'enliser dans des visions uniquement nationales constituerait, me semble-t-il, une grave erreur, singulièrement au moment où ce monde, à l'avenir difficilement lisible, devient de plus en plus dangereux, où la guerre se rapproche de nos frontières, où la Chine a ravi à l'Union européenne sa place de numéro 2 sur la scène internationale, tout en continuant à mener un combat après sans concession avec les États-Unis, au comportement malheureusement un peu trop erratique, surtout si M. Trump revient, il va falloir s'accrocher. Un duel dont nous ne sommes finalement que les spectateurs en Europe et peut-être les victimes si nous persistons à manquer de discernement. La rivalité sino-américaine a pour théâtre la propagation technologique et la dégradation environnementale, toutes choses que nous ne maîtrisons absolument pas. Les Européens, en particulier les Français, devraient réaliser que nous ne sommes plus au centre du jeu depuis longtemps. Il est temps que nous nous débarrassions d'une certaine naïveté, d'un discours optimiste sur la mondialisation, et en arrive à un réalisme pragmatique. Et pour citer Thomas Gomard, qui est le directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, ouvrez les guillemets, nous faisons comme si tout le monde voulait adopter notre mode de vie, nous répugnons à admettre que la politique internationale est un rapport de force avant d'être un débat d'idées. Dans la compétition cognitive, l'impact des modèles dépend moins de la pertinence que du poids de celui qui les impose. Fermez les guillemets, donc les enjeux qui nous attendent sont fondamentaux, il faut être à la hauteur. Et puis, puisque j'ai évoqué le FN, ou le RN, je ne sais plus comment il faut dire, ils ont quand même un procès qui les attend, qui va démarrer à l'automne 2024 pour détournement de fonds publics où Marine Le Pen et 26 autres personnes sont accusées d'avoir salarié avec des fonds européens des collaborateurs qui travaillaient en réalité pour le Front National. Nous avons toujours quand même, rappelons-le, la présomption d'innocence, mais nous allons voir ce qui en sortira. Ce sera malheureusement après les élections européennes. Bon, sur tout ça, Jean-François Mignard, que dire
après un édito fleuve de ce où beaucoup de choses ont été dites, comme d'habitude. Peut-être réagir à des sur le fait que on va, comme c'est souvent le cas, voter et beaucoup de gens, me semble-t-il, vont voter sur un objet qui est jamais ou sur une question qui est jamais celle qui est présentée. C'est un des tendons d'Achille de la démocratie que nous connaissons et que nous vivons, qui est en gros que et les référendums, alors un seul la forme achevée, hein, c'est-à-dire que on joue jamais complètement la partie qui est la partie qui est annoncée et le match qui est annoncé. Voilà, c'est tellement nous sommes certainement vampirisés au niveau politique, du fonctionnement politique, par des élections que nous considérons comme clés, qui sont notamment les élections, qui sont les élections nationales. Je veux dire, c'est quasiment pavlovien depuis le début sur l'Europe, ce qui, me semble-t-il, souligne quelque chose qui est que nous, au niveau de l'Europe, je ne vais pas revenir sur les contenus des programmes, ça, je pense qu'il suffira de lire le journal ou d'écouter la radio pour entendre tout, n'importe quoi, et le reste là-dessus. Mais voilà, on pourra peut-être se faire une idée. Mais il me semble que concernant l'Europe, ce que ça souligne, cette difficulté récurrente à ce que on vote, quand on a un scrutin européen, on vote en règle générale pour autre chose. Et essentiellement pour des enjeux qui sont des enjeux nationaux. Alors, sur le modèle national et avec la hiérarchie des...
C'est bien ce que je dénonce.
Bien sûr. Ça renvoie certainement au fait que nous sommes au milieu du gué sur la question qui est la question de la construction de l'Europe. C'est-à-dire que, et c'est la limite, pour le moment, c'est le péché originel, si je peux me permettre, de la création de l'Europe. L'Europe, c'est le marché du charbon et de l'acier. C'est une zone qui est une zone de libre-échange. C'est quelque chose qui est construit sur une logique à la fois du rapport de force économique, et c'est la limite certainement de la citation que vous évoquez, qui est qu'effectivement, il faut avoir une approche pragmatique, mais si l'approche pragmatique est celle du rapport de force, c'est une approche qui est une approche à très court terme. On ne sait jamais ce que le moyen et le long terme nous réservent. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que nous sommes européens ? Avons-nous conscience nous-mêmes d'être européens ? Je pense que les générations, mais on en parlera certainement, puisqu'on a quelqu'un d'une génération différente de la nôtre ici.
Très peu, mais bon.
Voilà, mais j'ai l'impression que c'est un espace de circulation très, très, très simple par rapport à ce qu'on a pu vivre pour les jeunes de notre âge. Pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit, comme dirait l'autre, un projet partagé collectif. Tout simplement parce que, pour le coup, nous avons eu une démarche pragmatique qui est celle de dire, en fin de compte, ne remettons pas en cause le paradigme économique sur lequel est fondée l'Europe. C'est un marché. Et à partir de là, les choses se feront naturellement. Je ne suis pas sûr que le marché construit de la différence idéologique, intellectuelle. Alors, la preuve d'ailleurs, c'est que pour aller construire du côté de la référence intellectuelle ou des valeurs, on va chercher plus sur de l'ancien que sur du moderne en européen. C'est-à-dire que c'est plutôt du côté du patrimoine que ça se joue que du côté de l'avenir. Voilà. Et je pense que c'est que une des questions et une espèce de fatalité par défaut. C'est-à-dire que on a construit l'Europe parce que ça va nous éviter la guerre. C'est un discours de génération aussi, qui est celle de la nôtre. On ne l'a pas connu, alors on peut en parler d'autant plus facilement. Mais on était très proche de gens qui l'avaient connu. Et l'Europe, c'était ça, c'était sortir de la guerre. Aujourd'hui, on a la guerre sur l'espace européen. On a la guerre sur l'espace européen. Alors, on l'avait avant, je veux dire, en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. C'était quand même quelque chose d'européen, qu'on le veuille ou non. Et on n'a toujours pas Il me semble-t-il le choix politique de construire une identité qui est une identité à l'échelle d'un continent. À part effectivement cette fameuse approche pragmatique sur le modèle anglo-saxon, qui d'ailleurs, comble l'ironie, a réussi à en sortir après avoir largement imposé ce modèle-là de façon dominante. Donc, c'est pas du tout, me semble-t-il, non plus complètement étonnant qu'on ait beaucoup de difficultés à avoir réellement des débats qui soient des débats sur l'Europe. On a des débats sur ce qu'on peut. Comment dire? Je vais citer, alors, je vais faire un truc. Vous savez qui c'est qui a dit l'humanité ne se pose que les questions qu'elle peut résoudre? Ça vous dit quelque chose?
Non, mais bon.
Voilà. Eh bien, c'était Karl Marx. Alors bon, ça fait un peu ringard et tout ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de perspective ou d'identité de solution partagée, c'est difficile de se poser la question. Et la question européenne, elle est pendante. Moi, il me semble, je dois avouer que personnellement, quand je vais voter pour les élections qui sont des élections européennes, j'y vais de manière assez sceptique par rapport à ces enjeux, tant je vais voter pour quelque chose que je ne qu'autant je peux partager culturellement, autant idéologiquement je partage très peu. Ça me file pas envie d'aller voter pour l'Europe. Et au risque d'être un porte-à-faux par rapport à ce que vous dites, Jacques, mais c'est ça le débat aussi. Par exemple, je pense que les LFI posent cette question-là à travers la question qui est la question toutes choses étaient égales par ailleurs sur des positions, des choses comme ça, mais c'est un des rares partis politiques qui pose la question, qui veut dire ce n'est pas cette Europe-là que nous voulons, c'est autre chose. Alors, le rapport entre le souverainisme, l'approche européenne ou des choses comme ça, mais cette question-là que nous avons devant nous depuis des années maintenant, on ne se la pose pas au sens politique du terme, c'est-à-dire se donner les moyens d'avoir le débat pour, à un moment donné, avancer au-delà de la question fatale, hein, qui est de dire, si on veut peser économiquement à l'échelle du monde, il faut qu'on soit un bloc qui... Ce qui, ça aussi, d'ailleurs, se vérifie plus complètement. Hein, je veux dire, les grands blocs comme ça, politiques et économiques, ils se délitent aussi à l'échelle d'une mondialisation.
Ouais, ils se délitent mollement, parce que d'un côté, on a quand même... Oui. On est des spectateurs du combat aujourd'hui qui va se dérouler dans les 20-30 oui. prochaines années. On ne sait pas comment il se terminera entre la Chine et les États-Unis. Des valeurs fondamentalement différentes.
Qui vont mal.
Les deux vont mal.
Les deux vont mal économiquement.
Mais pour autant, s'il y a un accident, nous, on est au bord de la route, là, on va en prendre plein la tête.
Oui, c'est bien sûr, bien évidemment. Mais ce sont deux grands blocs qui sont des blocs qui, aujourd'hui, fonctionnent de manière concurrente et relativement semblable au niveau économique. Là aussi, c'est le marché, hein, hors du marché, point de salut. Et effectivement, je veux dire, l'idée d'une Europe qui est une Europe conquérante, qui pourrait tenir tête à la Chine et aux États-Unis, parce que ce serait sur un modèle économique qui fonctionne, c'est quelque chose, de mon point de vue, qui est de l'ordre du fantasme dans lequel on a vécu. On peut effectivement concurrencer la Chine et les États-Unis, mais sur un modèle économique, est un modèle économique qui fait pas ses preuves. Est-on en capacité de faire des choix qui sont des choix qui ne sont pas ceux de la Chine au plan économique et y compris des libertés publiques ou celui des États-Unis? Cette question-là, elle est, je pense qu'elle est encore ouverte.
Voilà. Est-ce que nous pourrions être une troisième voie?
Ouais, ou une voie différente, une manière de penser, effectivement. Alors, il y a des bouts de choses, hein, je veux dire, des fois, moi je pense que l'Europe, des fois, nous sauve. De nos tentations nationales. La Cour européenne des droits de l'homme, de temps en temps, nous condamne, mais ça soit dessus. Hein, ce que je veux dire, même ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est très compliqué aujourd'hui
d'être pro-européen. Ça le mérite d'exister.
Complètement. C'est pour ça que je dis, c'est à la fois très positif, et c'est pour ça que je pense que nous sommes au milieu du gué, mais en même temps, aujourd'hui, un État peut s'asseoir là-dessus, comme le fait l'État français, hein, en disant, oui, on est condamné. Bon, eh bien, écoutez, on va continuer comme on faisait avant. Et par ailleurs, hurler, comme vous l'avez fort justement dit, en renvoyant à l'Europe ce que ça peut avoir de pire, hein, et en revenant en France pour expliquer que la politique interne, on l'a fait à cause de l'Europe. Bon, voilà,
c'est... Ben, la France va mal, on le sait. L'Allemagne va guère mieux avec M. Scholz qui va certainement quitter la piste un jour ou l'autre, oui. Parce qu'il n'est pas forcément très brillant. Et puis maintenant, on nous parle du triangle de Weimar, c'est-à-dire que la Pologne qui viendrait se rajouter au fameux couple franco-allemand. Il n'y a jamais eu vraiment de couple, hein. Il faut le savoir. Mais,
Oui.
On a toujours voulu que ce soit le moteur de l'Europe. On va voir ce que ça va donner avec la Pologne. Alors, un couple à deux, c'est jamais simple. À trois, c'est nettement plus compliqué. Mais on va voir ce que M. Tusk va apporter à Macron et à Scholz, qui ont tous les deux des pays affaiblis et tous les deux qui sont deux dirigeants affaiblis.
Et on pourrait demander à notre collaboratrice, débattrice, qui est jeune, est-ce que vous vous sentez européenne ?
Oui, bien sûr, je me sens européenne.
Ben tiens, alors Maëva, dites-nous comment vous les voyez, ces élections qui arrivent.
Oh ben, je pense que oui, ça a un enjeu pour moi, mon futur. Il y aura sûrement des sacrifices à faire plus tard, notamment sur les retraites. Après, bon, en espérant que le tir sera rétabli.
Pour l'instant, les retraites, vous nous les payez, donc on est ravis. Merci Maëva. Merci Léo, merci les autres. Si vous voulez nous parler un peu plus longtemps, parce que je sais que vous avez réfléchi sur cette question et on aimerait bien vous entendre.
Oui, alors les chiffres tant attendus ont été publiés ce mardi par l'INSEE. Le déficit budgétaire de la France pour l'année 2023 s'élève à finalement...
Maëva, on parlera du déficit après, mais on parle d'Europe d'abord. Hein.
Okay.
Le déficit, on va y venir. C'est un autre des problèmes qui se posent d'ailleurs aussi au niveau européen, puisque beaucoup de gens nous font les gros yeux. Mais parlons de cette élection européenne d'abord.
Sur l'Europe, j'ai aussi parlé du déficit.
Eh bien, parlons du déficit sur l'Europe. De toute façon, tout est dans tout, là. Tout est impacté, tout se tient. Hein. C'est un château de cartes.
Alors, au troisième trimestre de 2023, le déficit public de l'Union européenne s'est établi en moyenne à 2,8% du PIB, ce qui marque une légère amélioration de 0,2 points par rapport au trimestre précédent. Les recettes et dépenses des États membres ont été affectées par les politiques de relance mises en place pendant la pandémie du Covid-19, ainsi que par des mesures visant à atténuer les effets de la hausse des prix de l'énergie. Alors, les résultats du déficit public ont été publiés mardi par l'INSEE. En tête du classement, on retrouve le Danemark, le Portugal et l'Irlande. La France, quant à elle, occupe la troisième place des pays les plus déficitaires d'Europe. Nous observons un écart significatif avec la moyenne européenne pour les fonctions des retraites, de santé et de logement. La France devance la Pologne et l'Italie dans ce classement de 2023.
Et la Grèce ne doit pas être très très bien classée non plus, j'imagine. Hein.
Vu le traitement auquel ils ont eu droit quelques années.
Ils se sont fait essorer par le FMI et les petits camarades. Il y avait d'ailleurs un très beau film là-dessus. De Costa Gavras, je crois, hein, que j'avais interviewé d'ailleurs à cette occasion, et c'était tout à fait significatif. Donc Maëva, confiante pour la suite ?
Oui, on va l'être. Il faut bien, de toute façon.
Oui, on n'a pas trop le choix. Oui. Donc, en synthèse, il faut aller voter quand même. Hein. Il faut y aller, parce que nous allons avoir besoin de l'Europe. Je crois qu'aucun des pays européens aujourd'hui n'est en capacité de se tirer tout seul d'affaires, n'est en capacité de faire pièce à la Chine et aux États-Unis. Notre grande faiblesse, effectivement, c'est d'être souvent concurrent sur certains marchés, on revient au marché, et d'avoir des approches peut-être sociétales relativement différentes.
Oui, bien sûr, c'est à quel prix payer la compétitivité ? À quel prix social, pour le coup ? Payer la compétitivité, c'est une question qui est une question lancinante, sur laquelle, effectivement, je pense qu'on n'est pas allé au bout de la réflexion et le modèle européen, de ce point de vue-là, n'est en rien différent de ce que peut être le modèle dominant à l'échelle planétaire. Là, ce serait énorme de lire
peut-être
ça.
Un peu...
C'est pas du tout ça dont il s'agit, de mon point de vue, mais du moins des acteurs qui sont des acteurs économiques, parce que le monde ne sait pas que l'économie, ou du moins que l'économie monétaire ou les choses comme ça. Et on n'a pas, personnellement, je trouve qu'on a effectivement pas avancé là-dessus. et que cette question, encore une fois, est devant nous. Et ces élections-là ne la posent pas. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas y aller, la question n'est pas là. Mais c'est que.
Les élections poseront la question si les hommes politiques veulent bien se la poser.
Si
on nous parle d'Europe, si on nous parle des valeurs, si on nous parle des buts, si on nous parle de notre État et de là où on voudrait être, si on est un peu réaliste par rapport à un État du monde aujourd'hui très dégradé, très conflictuel dans tous les domaines, on va peut-être pouvoir avancer. C'est certain que l'Europe, elle reste encore en grande partie à construire, et notamment l'Europe des valeurs. Cela étant, si on n'en débat jamais, et si on ramène chaque fois qu'il y a un débat européen la question à ce qui se passe chez nous en disant on va tacler M. Macron parce qu'on ne l'aime pas, et
bien sûr,
on ne l'aime pas, il n'est pas au centre du débat aujourd'hui, ce n'est pas Macron.
Non,
en plus de ça, il a un discours sur l'Europe, il a eu quelques fulgurances, notamment dans un discours, c'était au Bernardin, je crois, où il avait tracé des perspectives qui n'étaient pas inintéressantes.
Mais ce garçon est capable du tout et du pire, et surtout du pire. Hein, et se rattrape de temps en temps sur, j'allais dire le meilleur, sur le moins pire maintenant, parce qu'effectivement, on a de moins en moins sur le... Ça dérape un peu,
comme quoi les études n'apportent rien, et on peut avoir un QI certainement au-dessus de la moyenne, mais pas avoir l'intelligence de la fonction.
Oui, c'est valable pour plein de gens, ça.
Oui, partout. Mais quand là, ça se voit particulièrement.
Oui.
Même si c'est une règle absolue. Bon, donc, en synthèse, allez voter, intéressez-vous aux problèmes européens et sachez que la France sans l'Europe ne serait pas grand-chose, les autres pays non plus, mais que nous avons tout à construire et que c'est aussi maintenant que nous pouvons ajouter une pierre à l'édifice, une pierre importante. Deuxième sujet, l'inquiétant est, on va dire entre guillemets, inattendu déficit public, puisque le chiffre est tombé.
Oh, quelle surprise
Ce qui est la surprise, c'est pas qu'il y a un déficit, mais qu'ils ne s'attendaient pas quand même à ce qu'il soit, le déficit public pour 2023, bien sûr, à 5,5% du PIB.
Comment dire, un budget sincère et véritable.
C'est ce qu'on dit.
Au 49.3.
Le président de la Cour des comptes en a dit sur France Inter l'autre matin ce qu'il en pensait. Il est resté dans son rôle, mais on a compris entre les lignes quand même. Donc un déficit de 154 milliards d'euros, excusez-moi du peu. On en attendait 4,9%, on prend 5,5%. Et ça a surpris un peu tout le monde. Énorme écart donc, il faudra en trouver la cause. Mais prenez besoin d'aller la chercher bien loin. Et le ministre de l'économie vient de découvrir à cette occasion comment fonctionne l'économie. C'est quand même bien, ça faisait tant qu'il était là. Lorsqu'il y a moins de recettes...
C'est rassurant.
Oui. On va avancer. Lorsqu'il y a moins de recettes et plus de dépenses, il a découvert qu'il se crée un déficit. Donc, fabuleuse découverte, 21 milliards de recettes fiscales en moins, et puis le chéquier brandi à tout moment pour calmer les grognes. On l'a vu avec les agriculteurs, dès que les gens descendent dans la rue, qu'ils ont quelques moyens quand même.
De pression, qu'on ne l'a pas vu pour tout le monde, on y reviendra peut-être.
Oui, certainement. On a vu, on sort le chéquier, ça calme les gens pour un temps, puis ils savent que maintenant il suffit de bloquer les routes ou Paris pour avoir quelques sous. Donc c'est pas forcément une politique de gribouille. Et donc Monsieur Macron, à force d'épargner les plus riches et de supprimer l'impôt, il nous a conduit dans une impasse qui nous passe aujourd'hui sur la troisième marche du podium des États européens endettés. C'est ce que vous disiez, Maëva, derrière, je crois, la Grèce et l'Italie, mais vous avez ajouté la Pologne. Alors vous avez peut-être un meilleur chiffre que moi. En tout cas, c'est un magnifique résultat. Depuis qu'il est au pouvoir, il arriverait...
Au passage, la Pologne qui sort d'une longue gouvernance d'un parti d'extrême droite.
Ce qui donne une référence, ça donne envie de voter à l'extrême droite. Si vous les retrouvez en queue de peloton et bien plombés, votez pour l'extrême droite. Alors les agences européennes et autres nous attendent au tournant pour dégrader la note de la France, ce qui se traduira mécaniquement par un renchérissement de nos taux d'emprunt. Il y a un moment où on empruntait à taux négatif, c'était fabuleux. Là on y allait. La dette de la France s'élève aujourd'hui à peu près à quelque chose comme 3,88 milliards je crois. Ça fait 111,9%, quasiment 112% du PIB. Et nous empruntons aujourd'hui à 3,15% pour un coût total d'intérêt qui devrait avoisiner par an à peu près les 71,2 milliards, ce qui fait le budget d'un beau ministère. D'où les économies forcées prévues par le ministre de l'économie. Entre deux livres, il s'occupe un peu d'économie. Une première tranche de 10 milliards. suivi d'une seconde de 50 qui devrait toucher l'assurance chômage, les transports médicaux, la prise en charge des maladies chroniques, etc. Donc, vous l'avez compris, qui c'est qui va payer la note? Eh bien, ce sera certainement les plus mal lotis. Donc, on peut se poser des questions. Alors, incompétence, amateurisme ou peut-être tout simplement optimiste. Optimisme exacerbé, on entend tous les sons de cloche et on se perd en conjectures, mais rassurez-vous, on va quand même financer les Jeux Olympiques, Panem en circonstances, hein, où tout va très bien, Madame la Marquise, alors on aura plutôt certainement les Jeux de cirque que le pain, mais ce sera déjà ça. Jean-François.
Oui, alors les Jeux Olympiques, au passage, c'est entre 3 et 5 milliards, hein, estimé par le président de la Cour des comptes, en argent public. Ça va nous coûter ça.
S'il n'y a pas de dérapage, on sait que chaque fois.
Ce qu'il n'y a pas de dérapage, au vu du justement du vote du budget précédent, laisse quand même rêveur. Oui, alors, là-dessus, quoi dire, si ce n'est que, bien sûr, on va. Alors, bon, il y a le débat. Il y a le débat, qui est un débat, là aussi celui-là il serait intéressant à avoir, sur le déficit n'est pas un problème quand ça concerne les États. C'est un débat de macroéconomie, qui est de dire, après tout, on peut vivre au-dessus de ses moyens, parce qu'en tout état de cause, on est aussi maître d'une certaine manière de ses moyens ou de l'économie quand on s'appelle l'État. Alors ça, ce serait certainement un débat à avoir, parce qu'il me semble quand même, moi je suis pas du tout un économiste, donc j'y vais très prudemment avec les patins sur ces affaires-là, mais il me semble que le raisonnement qu'on peut avoir concernant effectivement le fonctionnement économique d'un État n'est pas forcément celui d'un ménage, et qu'on n'est pas dans la même situation, hein, que voilà. Et que la question de alors il y a deux questions, c'est quand on a de la dette, après tout une dette qui se projette dans l'avenir, ce n'est qu'un placement à terme, hein, voilà, c'est donc interroger la nature qui est la nature de la dette, et aujourd'hui en quoi on pourrait imaginer, hein, que quand l'État investit, c'est un placement qui est un placement économique.
Si c'est de l'investissement, oui. Si c'est pour financer le fonctionnement, c'est autre chose.
Deuxième chose, c'est la question qui est la question qu'on peut poser aujourd'hui au gouvernement qui veut toujours pas entendre, c'est OK, les dépenses et les recettes. Hein, où effectivement, alors, limiter les dépenses, certes, mais aller chercher du côté des recettes, en jouant de la fiscalité par rapport à des endroits qui sont dans lesquels on sait qu'il y a du potentiel qui est du potentiel économique. Et alors, c'est vrai que faire payer les riches, ça a un petit côté ringard, mais par ailleurs, les niches fiscales, et par ailleurs, l'évasion fiscale, et par ailleurs, les super bénéfices qui ont été faits pendant la
153 milliards de profits sur les entreprises du CAC 40. Donc, voilà. Comme son nom indique, elles sont 40, 19,3 pour Total, voilà. 18,6 pour Stellantis, c'est-à-dire Peugeot, Renault, etc., oui, oui, oui. Et 15,2 pour LVMH. C'est pas mal, hein.
Parce que le carnet de chèques et le quoi qu'il en coûte ne fonctionne pas que pour les agriculteurs, la FNSE, même si c'est déjà en partie scandaleux par rapport à ce qu'on peut constater, mais a largement profité à un certain nombre de gens qui se sont, alors comme on dit de manière souvent caricaturale, gavés effectivement d'argent public, et dont on pourrait attendre éventuellement que par retour on puisse effectivement récupérer cette aide qu'on leur a si largement octroyée. Et là,
avec, il faut le dire, on n'en parle pas assez, les rachats d'actions, il y en a eu quand même pour 30 milliards, opérations non imposées.
Oui, non imposées.
Donc ça fait qu'on sert une deuxième fois un dividende c'est caché une aux fois actionnaires. Oui, alors, il y a quand même beaucoup de choses à revoir.
C'est comme les rasoirs à double lame. Voilà, hein, voilà, c'est
la première coupe le poids, la deuxième.
Voilà. Et là, coucou, nous revoilà, on est confronté à une question qui est une question purement idéologique, hein, qui serait de dire, de ce que je crois en entendre, le fameux ministre des Finances, qui vient de redécouvrir le système assez basique de ce qui rentre et ne compense pas ce qui sort, quand ce qui sort est plus important que ce qui rentre, en gros. C'est assez, Au niveau des capacités cognitives, ça se situe assez bas dans l'échelle d'évolution, au niveau psychogénétique. Mais ne veut pas entendre parler, effectivement, de taxer les super-bénéfices.
Alors que Thomas Cazeneuve, son collègue du budget, ou je crois qu'il est d'ailleurs subordonné à BLM, je puis dire, lui, ferme pas vraiment la porte
non.
là-dessus.
Hein. Ah, et non, ça ferme pas parce que ça va devenir compliqué. Alors, sur quoi on va taper? On vient de l'apprendre dernièrement. Sur les retraites. Voilà. Par exemple,
Retraites et le chômage.
On va ponctionner les retraites et on va ponctionner le chômage. Hein, avec, j'imagine, le même raisonnement qui est de dire qui c'est qui va se mobiliser pour les chômeurs, qui sont après tout les pouilleux, les galeux, qui profitent de manière excessive de l'argent public. Ce qui est particulièrement crapuleux, par ailleurs, je tiens à le dire, quand on connaît la réalité, vraiment.
On a tout fait pour qu'il y ait une désindustrialisation, envoyer tout ce que nous devions fabriquer, le faire à la Chine, qui a été longtemps l'usine du monde et qui l'est aujourd'hui.
Oui.
Et donc les gens ne pouvaient pas avoir du travail en France, puisqu'on l'avait refilé aux Chinois.
Et pour les gens qui côtoient au quotidien des gens qui sont dans cette situation-là, c'est absolument insupportable, Antoine. Je veux dire, ces gens-là, je parle des gens qui tiennent ce discours-là du côté des ministères, parlent du vil-peuple d'une manière qui est une manière dont on avait depuis longtemps pas entendu la tonalité, quoi. Je veux dire, le chômeur est quelqu'un qui triche, hein, et le retraité est quelqu'un qui profite. Au passage, je signale que la retraite, c'est du salaire différé. C'est un vieux principe quand même de la retraite. C'est-à-dire que les gens qui touchent leur retraite, ce sont des gens qui, par ailleurs, ont cotisé, même si c'est les jeunes qui...
C'est un peu leur argent qui revient.
Les jeunes qui payent la retraite des vieux, hein, les jeunes, normalement, payent la retraite des vieux, parce qu'ils sauront que quand ils seront vieux, ce seront d'autres jeunes qui paieront leur retraite. Je me demande si les jeunes vont continuer à payer la retraite des vieux quand ils voient qu'on change les règles du jeu pendant qu'on est en train de jouer toujours au bénéfice des mêmes. Ce qui est d'ailleurs idéologiquement certainement tout à fait volontaire, puisqu'on est en train de déconstruire tranquillement ce que les gens appellent au pouvoir l'État-providence et ce que Robert Castel, sociologue de l'État, justement, appelait l'État social, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'État-providence, c'est quelque chose dans lequel on vit, on se gave de richesses, et l'État social, c'est celui qui remet de l'équilibre et de l'égalité entre les riches et les pauvres. Et tout ça, et je termine, parce que je suis peut-être un peu long, et pendant ce temps-là, on entend le Front National qui s'insurge contre la guerre qu'on fait aux pauvres. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de fabriquer, ce faisant, c'est aussi une extrême droite qui se nourrit de ce comportement et de ces politiques inégalitaires, en faisant semblant d'être effectivement du côté de ce malheureux peuple qu'on opprime et qu'on serre et qu'on oppresse, au bénéfice des riches. Politique sur laquelle, d'ailleurs, il n'a jamais voté quoi que ce soit contre.
Tout à fait.
Les votes du Rassemblement National, pour le coup, que ce soit en France ou en Europe, hein, on est toujours dans une logique qui est une logique qui est celle, effectivement, de taxer les pauvres et dans une logique inégalitaire. Et donc, éventuellement, l'origine des problèmes viendrait du fait que ces pouilleux et ces galeux de migrants viendraient manger le pain de nos...
Voilà. Justement, on est dans le problème parce qu'il y a la transition démographique, elle atteint la France.
Oui, voilà.
Nous avons de plus en plus de vieux et de moins en moins de jeunes.
Oui.
Madame Merkel l'avait compris parce que quand elle a fait rentrer 1 million de migrants, il y avait peut-être quelque peu trace d'altruisme, mais il y avait surtout du réalisme en sachant qu'il fallait payer les retraites. Et donc, on va se heurter à ce problème chez nous, c'est-à-dire qu'il y aura moins de forces vives et plus de forces qui ne sont plus vives, même si elles ont des droits, bien sûr, à toucher leur retraite.
Oui, oui.
Alors, comment on va faire? Si on écoute le Front National là-dessus, on ferme les frontières, on verrouille tout, et comment on avance, on ne sait pas.
On ne sait pas, non. Juste au passage, hein, sur la question qui est la question de retraite, un retraité, c'est pas quelqu'un qui fait que consommer, c'est quelqu'un qui aussi emploie des gens et qui est un acteur économique. Ça aussi, on oublie de le dire. Je veux dire, et un acteur économique, y compris comme amortisseur des générations suivantes. Le jour où on va sucrer les retraites des parents, je pense qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont quelques problèmes économiques, parce que beaucoup de parents les portent à bout de bras. Voilà. Et ça, c'est par exemple.
Et de plus en plus.
Ah oui, bien sûr, évidemment.
Ce qui ne se faisait pas pendant les 30 Glorieuses, mais aujourd'hui, l'aide aux enfants est quand même une part du budget du retraité important.
Et la solution, on la voit arriver, c'est de dire, mais monsieur, madame, reprenez un travail. Et nous voilà partis sur le modèle économique et le modèle économique que j'évoquais sur le
japonais quasiment, puisque
ou américain,
des âges canoniques qui sont encore au travail.
Ou américain, où moi, la dernière fois où j'y suis allé, j'ai vu des gens qui étaient à la caisse, qui avaient plus que mon âge, et qui étaient en train de faire ce petit boulot qui permettait de compenser une assurance retraite privée qui n'arrivait pas à les faire vivre.
Voilà. Pour même
alors,
plus faire bientôt.
Politiquement, c'est parfaitement inégalitaire, économiquement c'est parfaitement inégalitaire, et politiquement par rapport à ce que j'ai dit concernant le Rassemblement National, pour le coup, c'est aussi parfaitement désastreux. Voilà.
Maëva, qu'est-ce que vous nous en dites de tout ça ? Vous avez une vision de cette question, vous qui allez vous y trouver confrontée bientôt ?
Oui, bah comme on disait, les retraites seront certainement sacrifiées pour notre génération future. La génération à laquelle j'appartiens aujourd'hui.
C'est quelque chose à laquelle vous pensez ou bon, c'est une hypothèse tellement lointaine, une perspective tellement lointaine que bon...
Non, bien sûr, j'y pense et je pense que je ne suis pas la seule à y penser. Mais il faudra forcément trouver des solutions pour arranger le mouvement.
Oui, alors des solutions, je ne sais pas, il faut faire beaucoup d'enfants peut-être, il faudrait qu'ils arrivent vite sur un marché du travail qui n'en veut pas, donc on se mord un peu la queue quand même.
Oui, non mais c'est un discours, le discours de Maëva, moi c'est un discours que j'entends en discutant effectivement, oui. Avec, qui est en gros de dire, et ce n'est pas du tout un reproche, mais c'est la logique qui est parfaitement intégrée. C'est quand le dominé résonne avec les catégories du dominant, dirait Bourdieu, c'est la violence symbolique, c'est-à-dire que on a anticipé et on a intégré complètement quelque chose qui nous opprime parce que on se dit que de toute manière c'est inéluctable et c'est comme ça. Or, c'est là où je pense qu'on est en panne d'une situation dans laquelle on pourrait dire, comme l'ont dit un certain nombre de gens, alors bon, les retraites, la sécurité sociale et tout ça, je repense. Alors là aussi, sans sortir le mythe, ni les grandes périodes de notre histoire, mais les jours heureux et le programme du Conseil national de la résistance, qui a été à un moment donné un choix politique, hein, de dire voilà, la richesse qui est la richesse nationale, on l'emploie ça. Pour le moment, l'Europe répond pas à ça, pour en venir à la question précédente. Et la seule chose sur laquelle on a l'impression de pouvoir éventuellement avoir un bras de levier, c'est la dimension qui est la dimension nationale, tellement l'Europe nous paraît éloignée et régie par des règles qui sont des règles qui, de toute manière, nous s'imposent à nous sans qu'on puisse rien faire contre elles. Donc, c'est une situation, je pense, qui est une situation critique. Moi, j'entends effectivement avec inquiétude ce discours qui est de dire, de toute façon, moi, cotiser pour la retraite, à quoi ça sert? Parce que de toute façon, il sera pas versé. Donc, je vais trouver d'autres systèmes. Et là, sans jamais, encore une fois, se poser la question de savoir, ouais. mais où passe donc toute cette richesse qui est produite?
De résignation, finalement, on dirait que les jeunes tranches d'âge ont admis. Fait qu'il n'y aurait pas de retraite, voilà, on fait avec.
Oui, moi je pense que c'est bien fait. Moi je ne veux pas faire une critique, effectivement, de ce que puissent penser les on fait vraiment vieux con, là, les nouvelles générations, mais on l'est.
On l'est.
Mais bien sûr. Mais parce que je pense, effectivement, que le système, d'une certaine manière, paraît inéluctable de ce point de vue-là, voilà. Et qu'on vivrait une période heureuse, dont on aurait largement profité, hockey boomer, et qu'aujourd'hui, on laisse un État, un monde en capilotade, et dont on a bien profité. Mais je tiens à dire aux nouvelles générations que moi, j'ai pas choisi... Et je me suis battu contre des éléments du modèle économique qui m'opprime à moi en tant que vieux et qui opprime les jeunes en tant que jeunes. C'est-à-dire que je ne me sens pas redevable de choix politiques que j'ai combattus de ce point de vue-là. Et je pense qu'il faut continuer à les combattre, ces choix politiques-là, parce qu'ils ne sont pas inéluctaux. Quoi.
Inéluctaux.
Ou inéluctables.
Oui, on va dire inéluctables. Allez, je vous propose de passer au troisième sujet qui est la guerre à Gaza et la position des États-Unis qui vient de changer très légèrement après plus de 5 mois de conflit, vous l'avez vu. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le lundi 25 mars sa première résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pendant la durée du Ramadan, il ne reste plus que 2 semaines je crois, et la libération de tous les otages retenus par le Hamas. Les États-Unis, qui avaient mis leur veto à de précédents textes, se sont cette fois abstenus, permettant l'adoption par 14 voix de cette résolution. C'est pas la première fois que les États-Unis s'abstiennent pour faire pression sur Israël. Je crois que du temps de Bush père, il y avait déjà eu la même chose, à part que Bush père avait quand même très fortement tapé sur la table derrière. Le gouvernement israélien a estimé que l'abstention américaine nuisait aux efforts de guerre à la libération des otages de la bande de Gaza. Monsieur Benjamin Netanyahou a dit qu'il s'agit d'un net recul par rapport à la position constante des États-Unis au Conseil de sécurité depuis le début de la guerre du 7 octobre. Il en a même de colère annulé le départ d'une délégation qui devait aller à Washington pour discuter de la suite des opérations. Nous sommes très déçus qu'il ne vienne pas à Washington, a dit John Kirby, qui est le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Nous sommes très déçus et parce que nous aurions pu avoir une conversation approfondie à propos des alternatives crédibles à une opération terrestre à Rafah. Bon, le problème, c'est que je pense que Monsieur Netanyahou ne veut pas d'alternative, qu'il n'a pas de sortie politique et qu'il n'en tient pas à en avoir non plus, qu'il veut éradiquer les Palestiniens de toute la région, comme il l'a d'ailleurs toujours fait, quitte même à l'époque à subventionner le Hamas, parce qu'il est une création en partie israélienne, il faut le savoir, qui s'est retourné maintenant contre...
Le syndrome de Frankenstein,
voilà, on connaît bien ça. C'est un peu ça, et de toute façon, il n'a pas non plus intérêt sur le plan personnel à ce que la guerre s'arrête, parce que je crois que la justice de son pays l'attend avec une impatience croissante. N'est-ce pas, Jean-François?
Oui, alors le c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle, alors il y a à ce propos un papier je trouve très intéressant dans Le Monde d'aujourd'hui sur qu'est-ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là. C'est jamais indifférent du fait que par ailleurs la politique extérieure est toujours très contaminée par la politique intérieure. Ce qui se passe, la position de Biden concernant ce qui se passe en Israël, est quand même pas complètement indépendante du fait que nous allons vers des élections qui sont des élections présidentielles aux États-Unis, et qu'une bonne partie de l'électorat, et ça c'est une évolution qui est une évolution lente mais assez inéluctable aux États-Unis, une partie de l'électorat démocrate. Dont l'électorat juif, en gros la communauté juive aux États-Unis vote à 70 ou 75% démocrate, hein, pour des tas de raisons d'ailleurs que vous pourrez lire dans l'article qui sont développés. Voilà, Israël était plutôt du côté de démocrate, et là on voit par contre un glissement à droite et du côté républicain, d'un soutien à Israël, qui sont les évangélistes, intégristes, etc., etc. Autrement dit, la droite extrême et l'extrême droite aux États-Unis s'est alignée sur la droite et l'extrême droite qui est au pouvoir en Israël, et Biden se retrouve aujourd'hui dans une relative difficulté au regard de son électorat, parce qu'une partie de son électorat est en train de se dire « Nous, on n'est pas prêts à endosser et à valider effectivement ce qui se passe à Gaza et en Israël. » Et je pense qu'il y a un enjeu aussi qui est un enjeu de politique interne au regard de l'évolution qui est l'évolution de Biden et du parti qui est le Parti démocrate. Voilà. Après, moi, je pense que au-delà de ce qui est quand même une petite avancée, hein, les États-Unis se sont abstenus. Les États-Unis, on pourrait imaginer, condamner, hein, le fait qu'on est en train de, avec la même virulence, condamner, comme ils ont fait à juste titre ce qui s'est passé en octobre dernier, ce qu'aujourd'hui le gouvernement israélien est en train de faire vis-à-vis des Palestiniens.
Il suffirait qu'ils ferment les arsenaux, qu'on ne livre plus d'armes, ce qui serait...
Nous-mêmes ferions bien d'ailleurs de moins en livrer, puisqu'on en livre encore, et elles sont utilisées aujourd'hui... à Gaza, des armes qui sont des armes françaises, comme ça vient d'être découvert il y a quelques jours. Mais le Netanyahou, par ailleurs, effectivement, est quelqu'un qui ne connaît pour le coup que le rapport de force. Et je partage l'idée, effectivement, que tant qu'il n'y aura pas une position qui est une position forte des États-Unis, Netanyahou tuera tout le monde.
Absolument.
Plus rare, tout le monde, les femmes, les enfants, les vieillards et les combattants au milieu, et colonisera, finira de coloniser la entre guillemets Judée-Samarie pour en faire quelque chose qui est un projet, qui est un projet qui traverse une partie des juifs et aussi une partie des intégristes, évangélistes ou des choses comme ça. Qui est de faire une dans une indifférence relative de la communauté internationale pour refaire un État juif qui serait purgé entre guillemets des Palestiniens renvoyés dans des camps. C'est un effet miroir de l'histoire qui laisse stupéfiant.
C'est très curieux.
Quand on connaît un petit peu ce que nous avons vécu, nous, sur notre continent, de voir ce qui est en train de se passer en Israël.
Ben, l'enfant violé, souvent, reproduit, malheureusement, les conditions. Ouais, c'est très curieux, mais enfin bon. Peut-être que quelques psychiatres, psychologues, ou Pierre Larouille nous l'expliquerait beaucoup mieux.
Et avec de notre point de vue à nous aussi, une timidité qu'ont certains de nos compatriotes à condamner ce qui se passe à Gaza comme si nous étions redevables éventuellement, en étant aussi des Européens, de ce qui a pu se passer à l'égard du peuple juif pendant l'Holocauste.
Il y a une autocensure.
Je suis assez scandalisé. Alors, au quotidien, par exemple, nous sommes une radio qui est une radio qui sommes à Toulouse, sur le deux poids deux mesures de notre municipalité au regard de ce qui se passe à Gaza par rapport à ce qui a pu se passer en octobre dernier. Je trouve ça particulièrement scandaleux. Je veux dire, je serais palestinien, je trouverais ça insupportable. Et en tant que citoyen français, toulousain, je trouve insupportable la manière dont on traite de façon extrêmement inégalitaire ce qui se passe et ce qui s'est passé dans ce territoire-là depuis quelques mois. Je veux dire. Et ça, je trouve que c'est insupportable.
N'oublions pas aussi la Cisjordanie où les colons et quelques bandes armées s'en donnent à cœur joie. On n'entend pas beaucoup parler.
Bien entendu, et on vient de récupérer l'évoquer. Des kilomètres carrés pour agrandir effectivement la colonisation dans un silence qui est un silence absolu.
Bien, il me semble qu'il est temps, si je regarde la montre, d'attaquer notre dernière ligne droite et nos trois dernières rubriques. Alors les brèves, écoutez. Moi, je vous cite une phrase d'Hugo Micheron, qui est spécialiste des mouvements djihadistes, un historien. « L'attaque de Daesh déjoue le narratif poutinien d'une lutte à mort entre la Russie et l'Occident, qui voit dans tous les ennemis de l'Occident des alliés de la Russie. Elle expose un pouvoir russe incapable de prévoir la menace réelle. » C'était juste une phrase que je voulais vous citer, que j'ai piqué aussi sur TTSO, mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler de ce texte qui a été adopté à une très faible majorité, qui prévoit le mariage forcé de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui est le gendarme nucléaire, avec les équipes d'experts de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, qui est chargé d'évaluer les risques des installations. Donc on est en train de fragiliser le système de contrôle nucléaire et de ce qu'il en faut un. C'était d'ailleurs une vieille revendication d'EDF, qui considérer que les experts de la radioprotection et de la sûreté nucléaire étaient des empêcheurs de tourner en rond. Et c'est le suivant, on a un mécanisme beaucoup plus opaque aujourd'hui et on n'aura pas accès au contrôle, on ne sait pas dans quelles conditions ils vont se passer, on n'aura plus accès aux résultats de ces contrôles puisque le premier qui sera mis au courant, ce sera l'EDF. Est-ce que notre sécurité nucléaire est fragilisée? Apparemment, c'est ce que beaucoup pensent. Jean-François.
Alors, deux petites brèves. Une en écho de ce que vous avez évoqué concernant ce qui se passe en Russie, qui, vous le savez, m'importe toujours de très près. Et qui illustre ce que vous venez de dire, dans son incapacité à assumer sa responsabilité par rapport à ce qui s'est passé d'épouvantable à Moscou il y a de ça quelques jours. Le poutinisme triomphant à Moscou et ces sbires qui sont à peu près à tous les étages, et notamment les députés de Russie unie à la Douma, sont en train de débattre sur le fait de réintroduire la peine capitale dans le droit qui est le droit russe. Autrement dit, la grande régression poutinienne se fait absolument à tous les étages. Après avoir torturé devant les caméras les supposés auteurs des attentats, on est en train de vouloir restaurer la peine de mort en Russie. Vraiment, c'est un pays qui va de l'avant de ce point de vue. Et puis je voulais aussi évoquer chez nous le risque de disparition d'une association qui est une association importante par le rôle qu'elle a joué, qui est l'OIP, c'est l'Observatoire International des Prisons, qui est un contre-pouvoir au regard de ce qui se passe dans les prisons. Vous savez, la honte de notre pays, disait une ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice, voilà. Mais l'OIP a vu ses subventions publiques baisser en 10 ans de 67%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on dit, on est à l'os au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire que l'OIP aujourd'hui a été tué par l'État, plus précisément, par le jeu qui est le jeu de l'affaiblissement des subventions. Et de ce point de vue-là, c'est assez dramatique au regard des libertés publiques et des droits des gens qui sont dans les prisons et qui, à ce titre-là, ont aussi des droits. Maëva ?
Oui, moi j'ai une info qui est tombée aujourd'hui. Donc l'exécutif dévoile la feuille de route de l'exécutif en faveur de la transition écologique. Ce plan va être détaillé par Gabriel Attal et quatre membres du gouvernement à Paris, au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est une série d'objectifs chiffrés à atteindre d'ici 2024 et 2027. L'État veut par exemple réduire de 5% sa consommation de carburant en 2024.
Oui, c'est très bien, mais on a vu quand même, alors au niveau européen, pour revenir à l'Europe, on a vu qu'il y avait quand même un recul, déjà en France il y a un recul, et qu'au niveau européen on a fait beaucoup de concessions aux agriculteurs, et là aussi, au niveau de l'environnement globalement, il y a quand même un certain recul, sachant que l'Europe est un des continents qui se réchauffe le plus vite. Je crois que nous avons des irresponsables aux manettes. Mais
du côté des chiffres, j'ai de plus en plus de mal à croire le gouvernement, notamment après le coup du budget 2024.
Mais oui, voilà. On peut se gratter la tête, effectivement. Allez, le ça va mieux. Alors, le ça va mieux, je pense qu'on va le partager. On revient sur ce fameux projet totalement surréaliste, incongru, qui est cette autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Il y avait des gens courageux et qui se sont engagés physiquement en se perchant dans les arbres, et c'est pas un vain mot que de le dire, avec une opposition policière, gendarmesque.
Un siège,
de 39 voilà.
Jours.
Oui, 39 jours dans des conditions absolument hallucinantes. Enfin, je sais pas si on peut encore concevoir, d'ailleurs l'ONU s'en est même ému puisqu'on en a parlé à notre dernière émission. Bon, il se trouve que les mésanges bleus, comme l'a titré le canard, a sauvé les écureuils puisqu'on a constaté qu'il y avait des races d'oiseaux qui nidifiaient et que donc il était hors de question, au moins dans cette période-là, et l'Office français de la biodiversité est allé sur place, le préfet a confirmé, les abattages et les défrichements étaient illégaux, donc voilà, on va peut-être atermoyer un peu sur mais pour combien de temps. Mais pour l'instant, on a sauvé des oiseaux, on a sauvé des arbres. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup.
Oui, on est peut-être aussi, au-delà de ça, en train de, si ce n'est sauver, du moins à faire évoluer au prix sur lequel il faut revenir d'ailleurs. Les grandes décisions publiques concernant des projets qui sont des projets censés être d'intérêt général, ça passe de moins en moins facilement, quoi. Et ça signe un petit peu le bruit qu'on fait autour de cette question-là. Signe le fait peut-être que ça va mieux de ce point de vue-là, mais ça reste encore, il reste beaucoup à faire.
Oui, il reste beaucoup à faire. Maëva, qu'est-ce qui va mieux pour vous ?
Oui, ce qui va mieux, c'est que Emmanuel Macron et le président brésilien ont annoncé cette semaine un programme d'investissement vert pour l'Amazonie, soit 1 milliard d'euros d'investissement public et privé sur les 4 prochaines années pour la forêt amazonienne. Elle représente un rôle vital contre le réchauffement climatique. Il est important de la conserver et d'entretenir une gestion durable.
Une gestion durable qu'il ne faudra certainement pas confier à IKEA. Je vous renvoie sur l'excellent film qui a été projeté il y a quelques jours sur Arte, qui doit être toujours d'ailleurs sur le site d'Arte, et qui nous apprend comment IKEA se comporte par rapport aux forêts, par rapport au bois. Personnellement, je n'en savais pas la moitié, j'étais halluciné. Voilà, le conseil culturel pour en terminer. Alors moi, une pièce de théâtre, elle se joue à Paris, mais je crois qu'elle va partir à tourner. Arrivera-t-elle à Toulouse? Je ne sais pas, mais elle est intéressante parce qu'elle s'appelle Larzac. Et vous souvenez, hein, pour les alors c'est toujours des trucs d'anciens, ça.
Je crois avoir encore un droit de propriété de quelques mètres carrés sur le plateau de Larzac.
Voilà, projet pompidolien un peu fou, hein, qui consistait à passer un camp militaire de 3000 à 17000 hectares. Et il y a 103 paysans qui se sont réunis, qui ont, il y a une mobilisation sur la France, Roger Beauvais, etc. Bon, on est dans l'histoire, mais elle a une répercussion inattendue parce que il y a un metteur en scène, Philippe Durand, qui nous raconte l'histoire des paysans qui se sont installés là-bas. Pendant 9 mois, il est allé interroger des dizaines de paysans sur place. Il a attiré un spectacle donc singulier, ça s'appelle Larzac. Peut-être qu'on finira par le voir à Toulouse. Alors c'est très intéressant parce que les paysans du Larzac aujourd'hui se sont groupés. Ils ont un système de gestion des terres intéressant. Ils ne sont pas propriétaires des terres, ils en sont les occupants. À l'inverse du reste de la France, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs jeunes là-bas qui ont moins de 40 ans, donc ça fonctionne. L'État a octroyé un bail emphytéotique qui court jusqu'en 2085. Les 6300 hectares sont loués à un collectif qui s'appelle la Société Civile des Terres du Larzac. Il y a un conseil de gérance, dont je membre, et lorsqu'on dans une ferme, dans une maison, l'occupant paye une valeur d'usage calculée en fonction de l'état des bâtiments et des terrains, et quand il va ressortir, eh bien son successeur va reprendre cet endettement-là. Mais les agriculteurs de là-bas, eh bien, ils ont trouvé un mode de gestion des terres tout à fait intéressant, qui permet aux jeunes de s'installer, qui permet aux jeunes de travailler, de ne pas être endettés, de fonctionner. C'est peut-être quelque chose qu'il faut regarder. On va en parler à l'FNSEA. Hein.
Oui, on pourrait croire que notre monde est possible, quoi.
Voilà. Donc, cette pièce, et puis très rapidement, je l'ai citée, donc je voulais le rappeler. Période européenne, lisez chez Texto Essai, Guerre invisible de Thomas Gomard. Et je pense que quand vous l'aurez lu, ça vous donnera envie un peu de resserrer les liens européens pour essayer de faire que nous existions un peu sur cette planète face à un tas de gens qui veulent nous bouffer, si je puis dire. Conseil culturel ?
Oui, très rapidement, un livre qui marquera pas forcément la culture française, mais c'est un livre de Guillaume Meurice, hein, ça s'appelle « Dans l'oreille du cyclone ». C'est suite, vous savez, au scandale qui a été créé par son intervention. On parlait de Netanyahu tout à l'heure, voilà, hein, et où il raconte ces événements qui ont pris des proportions assez dantesques d'ailleurs, hein, convocation à la police, etc., etc. Alors, au-delà de la dimension anecdotique qui est toujours plaisante, et puis le garçon ne manque pas d'humour, même quand il écrit, au-delà de ce qu'il fait quand il parle. J'en ai lu des bouts, je ne l'ai pas lu en entier, mais je trouve que c'est une bonne description aujourd'hui de l'évolution qu'il peut y avoir concernant ce qu'on appelle la liberté d'expression et des atteintes qui peuvent y être portées au regard d'un certain nombre de choses qui seraient interdites à l'écoute.
Et le mot de la fin, c'est Maëva qui va l'avoir avec son conseil culturel.
Oui. Je vais vous parler d'un film qui est sorti à la mi-mars, donc ça s'appelle La Nouvelle Femme, et retrace la vie de Maria Montessori, donc la professeure qui a inventé des nouvelles pédagogies pour les enfants handicapés au départ. Alors, il se passe dans les années 1900 en Italie. Le film se passe en français et en Italie. Il y a des éléments qui ont été rajoutés pour romancer un peu le film. Mais le fond d'histoire est vrai sur cette pédagogie qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on compte 400 écoles Montessori rien qu'en France.
Eh bien, voilà. Nous sommes au bout. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous les trois.
Remercions-nous mutuellement.
On va remercier également Léo qui était aux commandes et au bouton. Merci Léo.
Avec maestria.
Voilà, comme toujours. Et vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. C'est pas l'actualité qui manque. On est obligé de faire des choix. On aurait pu parler de bien d'autres sujets parce qu'il y a des sujets brûlants. Il y en a un peu partout. Mais la prochaine fois, certainement, nous aborderons. Hein, la prochaine fois, nous avons un champ infini de réflexion et de base de discussion. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Belle soirée et à très bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux.